Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme, les unes des journaux récentes ou passées regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à me suivre sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne troubleront pas vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervémichel.net pour connaître mon activité littéraire. Sachez également que je viens de publier un nouveau roman aux éditions Legacy intitulé « Le trésor du marquis ». L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est assez particulière en ce sens qu'elle concerne un tueur en série totalement hors norme. Vous savez, en général, ce type d'assassin est animé par des pulsions qui tournent autour d'une obsession dont le meurtre n'est pas forcément le pivot central. Cette obsession, ce peut être un type particulier de femme ou d'homme que le tueur en série veut dominer pour des raisons profondes et qui lui sont propres et en tout cas qui lui paraissent logiques. C'est pour cela que les tueurs en série sont facilement repérables, car ils s'en prennent toujours au même type de victime. C'est ce que l'on appelle la signature du tueur. Dans le cas qui nous intéresse, rien de tout cela. Les victimes étaient des hommes, des femmes et même des enfants issus de toutes les classes sociales. Celui dont je vais vous parler est l'un des rares tueurs dont la seule motivation était de tuer. Voici l'histoire du vampire de Düsseldorf. L'année 1929 est une sale année pour la police de Düsseldorf en Allemagne. Rien à voir avec les événements politiques qui d'ici quelques années vont embraser la planète, non. Ce qui inquiète les Düsseldorfois, c'est une vague de crimes sans précédent qui s'abat sur leur cité coquette et prospère. L'affaire a même pris une dimension internationale. Les journaux européens, mais aussi américains et anglais, ont dépêché sur place une armée d'envoyés spéciaux qui arpentent la cité et rendent compte au jour le jour de l'avancée de l'enquête sur cette incroyable série meurtrière. La police est sur les dents. Mode opératoire, profil des victimes, tout semble indiquer que l'on est en présence de plusieurs tueurs disséminés dans les quartiers de la ville. Et pourtant, pour compliquer le travail des enquêteurs, d'innombrables lettres de dénonciation, de faux aveux, des messages annonçant de futurs crimes inondent les bureaux de la sûreté. Tout commence par une froide nuit de février 1929. Apollonia Kuhn, une femme d'âge mûr, rentre chez elle en empruntant une série de ruelles désertes. Elle presse le pas. Ce soir, elle n'est pas tranquille, comme si un sombre pressentiment cherchait à l'avertir d'un danger. Soudain, un homme surgit de l'ombre et se dresse devant elle. Apollonia Kuhn n'a que le temps d'apercevoir le reflet spéculaire de la lune sur la lame d'une paire de ciseaux avant de ressentir une violente douleur à la poitrine. Sans un mot, l'inconnu frappe et frappe à nouveau. Il s'acharne alors qu'elle est déjà à terre. Lorsqu'elle ne bouge plus, il ajuste un ultime coup en visant posément la tempe de la pauvre femme. Il lève son bras et frappe, mais il manque sa cible et défigure à jamais sa victime. Car, malgré les 24 coups de ciseaux qu'elle a reçus, cette dernière va survivre. Grâce à l'intervention d'un passant, le meurtrier est mis en fuite et Apollonia Kuhn est transportée aux urgences de l'hôpital le plus proche. Dans l'une de ses plaies, on découvre un morceau de la lame du ciseau qui s'est brisé tant l'agresseur a mis de rage dans son attaque. Quelques jours plus tard, le meurtrier fait à nouveau parler de lui. Cette fois, la victime est un homme. Il se nomme Rudolf Schier et rentre d'une soirée entre amis. On le retrouve le lendemain matin baignant dans son sang, lardé de 26 coups de ciseaux. Sa tempe a été percée. Lui a eu moins de chance qu'Apollonia. Le 10 mars, soit à peine plus d'un mois après l'agression de la première victime, c'est une fillette de 9 ans qui est découverte morte poignardée et à moitié brûlée. Cette fois, plus de doute, un assassin des plus sanguinaires a fait sienne les rues de la ville. Le profil différent des victimes laisse supposer que, désormais, plus personne n'est à l'abri. Le mois suivant, le mode opératoire change. Le tueur prend-il confiance en lui ? Toujours est-il qu'il décide à présent d'étrangler ses proies. Le 2 avril, Erna Pénine, une jeune fille de 16 ans, se retrouve soudain garrottée et jetée au sol. Mais cette fois, la victime riposte et réussit à repousser l'attaque. Non loin de là, un couple, témoin de la scène, intervient, mettant en fuite celui que la presse nomme désormais le vampire à cause des coups de ciseaux qu'il porte au cou de ses victimes et qui font penser à des traces de morsures. Insatisfait du résultat de son agression, le vampire remet ça dès le lendemain. Cette fois, il parvient à entraîner une autre jeune fille dans un champ où il la viole et tente de l'étrangler. Il est sur le point de réussir lorsque des passants aperçoivent le crime qui est en train de se dérouler et mettent une nouvelle fois l'agresseur en fuite. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, la foule s'est massée pour satisfaire une curiosité malsaine. Un des policiers remarque parmi les badauds un jeune homme dont l'attitude lui paraît pour le moins suspecte. Dès qu'il s'approche de lui, ce dernier prend la fuite, mais il est rapidement rejoint et maîtrisé. Le garçon paraît désorienté et tient des propos incohérents. C'est en réalité un simple d'esprit. Dès qu'il se voit pris, il se met à pleurer. « C'est moi, oui, c'est moi le vampire, c'est moi qui ai tué toutes ces personnes », clame-t-il à la plus grande stupéfaction des policiers. Il est immédiatement incarcéré et, dès le lendemain matin, les journaux annoncent la nouvelle. Düsseldorf peut respirer, le monstre est pris. Et de fait, les agressions cessent. Quelques mois plus tard, l'affaire n'est plus qu'un lointain souvenir et la presse est depuis longtemps passée à autre chose, lorsque, au mois d'août, un nouveau crime vient réveiller les cauchemars des Düsseldorfois. Dans la nuit du 21 août, la bête revient. Et ce ne sont pas moins de 3 personnes, 2 femmes et un homme, qui sont poignardées à de multiples reprises. Tous les 3 survivent, mais aucun ne peut donner la description de son agresseur. Trop violent, trop rapide. 4 jours plus tard, la police fait une découverte des plus horribles. Elle retrouve les corps de 2 fillettes de 4 et 14 ans, étranglées, puis égorgées. Je ne vais pas ici vous citer toutes les victimes du vampire de Düsseldorf, car nous devrions y passer des heures. En effet, l'homme est soupçonné de pas moins de 80 meurtres et agressions. Sa frénésie de sang et de mort entraîne bientôt une véritable psychose en Allemagne, mais également en Europe. Le mode opératoire du tueur a de nouveau changé. Il tue désormais à coups de marteau et viole presque systématiquement ses victimes, y compris les plus jeunes, comme la petite Gertrude Albermann, qui n'a que 5 ans. Le monstre pousse même le cynisme jusqu'à expédier une lettre à la famille de Gertrude, dans laquelle il explique que l'enfant a beaucoup apprécié son viol. D'ailleurs, parlons-en des lettres. Ce n'est pas la première que le vampire de Düsseldorf envoie, non. Il a adressé plusieurs courriers à la police pour dénoncer ses propres crimes, mais ceux-ci se sont noyés dans la masse des faux aveux envoyés par d'innombrables détraqués qui cherchaient un peu de publicité. Si l'opinion reste persuadée qu'il s'agit d'un seul et unique assassin, la police, quant à elle, penche à présent plutôt pour plusieurs tueurs. Il faut dire que la peur du vampire s'étend à présent aux pays limitrophes, car en plusieurs lieux en Europe, des crimes similaires sont perpétrés. À quoi ou à qui a-t-on affaire ? Une organisation de criminels ? Des tueurs déjantés et mobiles ? Les autorités peinent à émettre une théorie qui tient la route. Pour ne rien arranger, ceux qui ont croisé le vampire sont soit morts, soit incapables de le décrire, même si parfois ils ont passé un long moment avec lui. Un homme charmant, affable, des yeux flamboyants, qui se transforme soudain en monstre sanguinaire. Voilà les seules descriptions que les policiers obtiennent, ils n'ont même pas de quoi faire un portrait robot. L'homme semble totalement invisible, c'est presque surnaturel. Ainsi, un jour, il passe plusieurs heures dans une fête foraine en compagnie d'une jeune femme qu'il va finalement agresser. Un photographe est là qui fixe ses instants de joie et de bonne humeur. Il mitraille la foule, les couples, réalise des portraits à la demande. Une aubaine pour la police qui plus tard examinera les clichés. C'est à peine croyable, mais le vampire de Düsseldorf n'apparaît sur aucun des tirages. Pas même un vague reflet dans une vitrine ou une silhouette de dos dans la foule, rien. Si ça, ce n'est pas de la chance. Mais, un jour ou l'autre, on le sait bien, la chance finit toujours par tourner. Le 15 mai de l'année suivante, alors que les crimes se poursuivent à un rythme effréné, une femme entre dans un commissariat de Düsseldorf. Elle s'avance vers le planton et lui tend une lettre. « J'ai reçu ceci par erreur, » dit-elle. Le policier la regarde un peu étonné. « C'est au service des postes qu'il faut vous adresser, pas à la police. » La femme, concierge dans un immeuble, fronce les sourcils. « Lisez !» lui intime-t-elle. Le policier prend la feuille de papier et, dès les premières lignes, a du mal à en croire ses yeux. Il s'agit d'une lettre adressée par une certaine Maria Büdlich à une de ses amies. Elle lui raconte avec force détail comment, la veille, un homme a tenté de l'agresser en la traînant dans un sous-bois. Son histoire semble directement sortie de l'esprit de Stephen King. Voici ce qu'elle dit dans sa lettre. Dans la soirée du 14 mai, Maria se rend à la gare de Düsseldorf où elle doit accueillir une amie qui vient passer quelques jours avec elle. Mais l'amie en question n'est pas au rendez-vous. Peut-être a-t-elle raté son train. Maria a beaucoup de chemin à faire pour rentrer chez elle et cette vague d'agression l'inquiète un peu. Aussi décide-t-elle de passer la nuit dans une sorte de pension de jeune fille qu'elle connaît. Elle sait que ce n'est pas très loin, mais elle ne se rappelle pas exactement du chemin depuis la gare. À un carrefour, elle hésite. Un homme l'aborde. Il est aimable, sympathique, et a compris qu'elle était perdue. « Le pensionnat ? Mais oui, bien sûr, je sais où c'est. Il faut traverser le jardin public. Je vais vous y conduire, » propose-t-il. Maria se sent en confiance et elle accepte bien imprudemment. À cette heure-là, le jardin public est totalement désert. Soudain, près d'un bosquet, l'homme attrape Maria par la taille et la tire à lui. Il tente de l'embrasser, ses mains s'égarent sous la jupe de la jeune femme qui se met à crier, à supplier même. Tout à coup, un homme surgit de l'ombre et se précipite au secours de l'infortuné. L'agresseur s'enfuit. Maria, toute chamboulée, remercie chaleureusement son sauveur. « Sans vous, je ne sais pas ce qu'il serait advenu de moi. » L'homme la réprimande un peu. « Mais enfin, une jeune femme ne se promène pas ainsi seule à la tombée de la nuit dans un pareil endroit. Venez, je vais vous remettre sur le bon chemin. » Maria pousse un soupir de soulagement et prend le bras que lui tend son sauveur. C'est un homme entre deux âges, au regard doux, au visage glabre, costume sobre et petit chapeau. Ce pourrait être son père. En réalité, celui au bras duquel elle s'éloigne n'est autre que le terrible vampire de Düsseldorf. Comme par hasard, le chemin pour le pensionnat passe devant le domicile de l'homme qui propose à la jeune femme, toujours tremblante, de monter boire un alcool fort pour lui redonner du courage. Maria accepte. Mais une fois dans l'appartement, les manières de son sauveur changent. Il devient entreprenant. Totalement effondrée, Maria pleure et lui demande de la raccompagner jusqu'à l'hôtel. Que se passe-t-il alors dans la tête du tueur sanguinaire ? Est-il ému par les larmes de la jeune femme ? Toujours est-il qu'il se calme et accepte enfin de la conduire à bon port. Ils doivent traverser un autre jardin public. Et là, l'instinct du vampire reprend le dessus. « Saurais-tu retrouver le chemin de mon appartement » demande-t-il. « Certainement pas, nous avons fait tant de détours. »« Sais-tu que je pourrais te tuer ? Personne ne t'entendrait crier ici, » dit-il. Maria, qui croit à demi à une plaisanterie, sourit. « Mais non, il ne faut pas me tuer, » dit-elle simplement. Elle n'a pas terminé sa phrase que l'homme se jette sur elle, la soulève du sol et l'emporte dans un bosquet où il la viole sauvagement. Un peu plus tard, la jeune femme reprend conscience. Elle est vivante et l'homme, son forfait accompli, a disparu. Blessée, honteuse, elle se lève et, après une longue errance, finit par retrouver enfin le foyer où elle prend une chambre. Avant de s'endormir, à bout de force, elle rédige une lettre pour son amie, cette même lettre que le facteur livrera à la mauvaise adresse. Le surlendemain, lorsque les policiers frappent à sa porte, Maria ne comprend pas très bien comment ils sont remontés jusqu'à elle. Elle n'avait nullement l'intention de porter plainte. Tout ce qu'elle veut, à présent, c'est oublier son calvaire et son humiliation. Mais les policiers insistent. Ils ont reçu l'ordre formel d'explorer toutes les pistes concernant le vampire. Maria finit par accepter de les aider. Sous bonne garde, elle tente de refaire le chemin qu'elle a parcouru avec le tueur, mais il faisait nuit. Toutes ces rues se ressemblent et puis elle a eu tellement peur. Non, elle a beau faire, elle ne retrouve pas l'immeuble dans lequel l'homme l'a entraînée. Les policiers sont dubitatifs. Ils ont eu tellement de faux témoignages qu'ils se demandent si cette fille n'est pas en train de leur jouer la grande scène du 2. Au bout de plusieurs heures, ils décident finalement d'abandonner les recherches. Cependant, ils ont réveillé chez Maria une sorte de fureur vengeresse. La jeune femme est autant en colère contre les flics qui doutent de sa parole que contre ce sale type qui l'a violée. Non, il faut qu'il paye. Maria n'a rien mangé depuis la veille. Elle ne peut rien avaler. Elle n'a pas dormi non plus. Elle est à bout de force et elle titube dans la rue. Pourtant, elle décide une chose incroyable. Elle va poursuivre elle-même l'enquête. Durant des heures, elle arpente tous les lieux qui lui semblent plus ou moins familiers. Puis soudain, elle tombe sur une vitrine éclairée de bleu. Elle se souvient de ce détail. Lorsqu'elle est sortie de l'immeuble de son agresseur, ce petit commerce l'avait frappée par son aspect. Oui, c'est bien là. Que faire? Retourner voir la police? Et si elle venait encore à se perdre? Et si elle se trompait? Et puis, les inspecteurs n'avaient pas l'air très motivés. Alors, elle fait une chose folle. Elle entre dans l'immeuble et monte au dernier étage. Elle reconnaît à présent parfaitement les escaliers. Là, oui, c'est là, c'est la porte qu'ils ont franchie l'avant-veille. Elle est entrouverte. Le cœur battant, Maria hésite. Elle s'approche de la porte et note le nom qui est inscrit sur une petite plaque de cuivre. Peter Curtin. Elle doit s'asseoir un instant sur une marche d'escalier tant la tête lui tourne. C'est à cet instant qu'elle croise une femme d'un certain âge. Cette dernière, voyant la pauvre fille au bord de l'évanouissement, s'inquiète. Maria lui révèle toute l'histoire et l'interroge sur le locataire de l'appartement. La femme hoche gravement la tête. Elle se doutait bien de quelque chose. « Vous êtes la quatrième jeune femme à venir poser des questions sur M. Curtin, » dit-elle. Elle n'a pas terminé sa phrase que la porte s'ouvre et un homme apparaît. Maria le reconnaît immédiatement et lui aussi la reconnaît. Il prend peur, il claque la porte et s'enferme à double tour. Quant à Maria, elle retrouve suffisamment d'énergie pour fuir et courir au poste de police le plus proche. En quelques heures, elle a résolu une affaire sur laquelle la police peinait depuis des mois. Mais cette histoire, digne d'un scénario de film, ne s'arrête pas là. En effet, lorsque les policiers se rendent au domicile de Curtin, celui-ci a mis les voiles. Il ne trouve que son épouse, car l'homme est marié. Madame Curtin est effondrée. Son mari est bien le vampire de Düsseldorf. Il lui a tout révélé avant de s'enfuir, en lui demandant de le pardonner. Une chasse à l'homme s'engage alors. On sait désormais qui l'on cherche. Tous les policiers reçoivent la photo du monstre et ont ordre de l'arrêter par tous les moyens. Mais, une fois encore, le tueur demeure insaisissable. Deux jours plus tard, Gertrude Curtin alerte les policiers. « J'ai rendez-vous avec mon mari, cet après-midi à 15h, Rokusplatz. Je dois lui apporter de l'argent et des affaires de rechange. Il veut quitter le pays. » À l'heure dite, la place est quasiment déserte. Seuls trois ou quatre promeneurs flânent en nourrissant les pigeons. Ce sont bien sûr des policiers en civil. Une mince silhouette s'avance presque timidement. C'est Curtin. Il cherche sa femme des yeux. Il s'avance encore un peu et soudain le signal est donné. Les policiers se ruent sur lui et le maîtrisent sans la moindre difficulté. Semblant presque soulagé, Curtin avoue. « C'est bien moi, oui, c'est moi. Vous le tenez, votre vampire de Düsseldorf. » Le procès passionna les foules. Tous les médias européens et même anglo-saxons s'intéressèrent à cette affaire qui révéla une personnalité extrêmement complexe chez ce tueur convaincu de 80 homicides. Curtin sera exécuté le 2 juillet 1931 à Cologne, à l'âge de 48 ans. Dans une dernière facétie, il demande au médecin qui l'accompagne à l'échafaud si, une fois sa tête tranchée, il aura encore le temps de sentir le sang jaillir de son corps. Et voilà comment se termine cette histoire. Mais un mystère demeure. En effet, Curtin avoua sans problème ses crimes, à l'exception de quelques-uns. Pour quelle raison? De toute manière, son sort était scellé. En tout cas, quelques jours après son exécution, un meurtre similaire eut lieu. Nous voici une fois de plus arrivés au terme d'une terrible histoire dans le cadre de cette série « L'écrivain mène l'enquête ». Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de ce mystérieux fait divers. C'était Hervé Michel et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine incursion dans le monde du crime et de l'étrange.